Attention, vous écoutez un programme avec un contenu idéologique manifeste. Si vous êtes centriste, apolitique, de droite, bourgeois, capitaliste, ce qui reviendra au même le jour où éclateront les barricades, veuillez changer de station afin de rester heureux et ignorant. L'équipe de la radio ne pourra en aucun cas être tenue responsable des conflits intérieurs inhérents à la production sonore que vous allez entendre.
Sur le thème de l'écosocialisme, qui est quelque chose qui vous rassemble déjà avec une partie des écologistes, avec une partie de l'extrême gauche et pas mal de composantes du front gauche. En quoi cette doctrine peut-elle vous permettre de relancer une nouvelle dynamique à gauche ?
La doctrine de l'écosocialisme a été en quelque sorte préparée dans le passé, par des travaux au Brésil et ailleurs, mais en France, la première fois où ça a été mis noir sur blanc et sous la forme d'un manifeste, c'était à l'occasion d'assises qu'avait organisé mon parti, le parti de gauche. Et de là est sorti un document qui a ensuite été amendé en fonction de tout ce qui avait été dit ce jour-là, le voici. C'est un petit document qui a déjà été traduit dans 10 langues. C'est aujourd'hui le texte politique contemporain le plus diffusé. Et pour ma part, je l'ai présenté déjà à Londres, Rome, Tunis, Alger, Rabat, et je crois une première fois ici à Toulouse, aux militants toulousains du Parti de Gauche, le soir du congrès de la CGT. Le texte a été également présenté à Budapest, à Copenhague. Il y a un enjeu intellectuel très important à en présenter les prémices et l'analyse dans des lieux où se trouve la jeunesse en formation. Ça nous intéresse que eux sachent qu'à part le libéralisme, il y a autre chose dans la vie. À part le social-libéralisme ou le communisme d'État, il y a une autre doctrine, celle de l'éco-socialisme. Et on pense que c'est cette nouvelle doctrine et sa construction qui va permettre de dépasser des conflits idéologiques du passé et de se poser des questions contemporaines avec une méthode, une grille d'analyse et une clé d'ouverture des portes du futur.
C'était le mardi 1er avril dernier, une conférence sur l'écosocialisme pour maîtriser le futur, organisée par Gaïa, l'association écologiste de l'IEP de Toulouse. C'était pour nous l'occasion d'en savoir plus sur cette théorie, avec l'un de ses fers de lance que vous aurez sûrement reconnu, ou si c'est pas le cas, vous allez le reconnaître très vite. Alors d'emblée, une précision pour les auditeurs, peut-être un peu chatouilleux, que le principe d'une radio libre, c'est aussi de faire entendre et d'entendre des voix avec lesquelles on n'est pas complètement d'accord, voire pas du tout d'accord, et n'ayez pas peur. C'est juste que cette heure sera exigeante, je pense, en tout cas intellectuellement. Alors le mieux, c'est de vous asseoir, tranquillement, montez un peu le son, ou mettez un casque, et laissez-vous embarquer pour cette heure, avec de la philosophie politique, dans le magazine de Canal Sud ce soir. Et si le cœur vous en dit, on en recause la semaine prochaine à tête reposée. Mais pour l'instant, on s'écoute une heure autour de l'écosocialisme, une voie pour maîtriser le futur. La question est posée.
Je dirais, imaginez un véhicule qui roule à grande vitesse sur une route. L'ensemble des paramètres sont connus. La route, le véhicule, les 4 pneus, la vitesse, la direction. Et intervient dans la cabine de pilotage la présence d'une guêpe qui va le piquer. Aucun des paramètres de départ n'a changé sinon un, qui peut être considéré comme infime, et qui va produire un changement de trajectoire absolu du véhicule. Voici ce qu'est une image assez résumée et assez caricaturale de ce qu'est une bifurcation. Ces bifurcations interviennent dans 3 domaines. Le premier, c'est celui de l'écosystème. L'écosystème compatible avec la vie humaine. C'est une bifurcation d'une très grande amplitude. Et elle ne sera pas linéaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le climat va changer petit à petit. Il va changer par paliers et brusquement, avec des périodes étales. Ce n'est donc pas un changement linéaire. il va progresser, connaître un palier, puis une explosion, puis de nouveau un palier. Des phénomènes climatiques de type nouveau ont lieu et le réchauffement s'observe. Il y a une discussion, je l'ai dit, pour savoir si c'est d'origine humaine ou si c'est cyclique. Mais peu importe, le climat, d'une manière générale, est un système métastable, c'est-à-dire toujours proche du déséquilibre. Et donc, une infime variation de paramètres peut produire des conséquences gigantesques. Nous y sommes. Le dernier rapport du GIEC et les observations de la NASA, peut-être avez-vous été attentif, soulignent que cette transition est commencée. Elle a des conséquences qui ne sont pas que climatiques. Ça a des conséquences dans de nombreux domaines, mais notamment dans le domaine de l'organisation des sociétés humaines, puisqu'il vient à la rencontre d'une explosion du nombre des êtres humains, dont je vais parler dans un instant. Aujourd'hui, 45% de la population mondiale vit au bord de la mer. Cette proportion, avec le développement de la population, va monter à 75%. Dans notre pays, 50% de la population vit à moins de 100 km d'un bord de mer. Par conséquent, l'élévation du niveau de la mer produit automatiquement une réorganisation des sociétés humaines et les perturbera dans des conditions où la façon avec laquelle ils répondent aux problèmes va être opposée. Chacun pour soi, mais tous ensemble. Je veux rapidement maintenant passer à la deuxième bifurcation, qui est la bifurcation géopolitique. Ceux qui viendront à manquer d'eau, ceux qui viendront à être envahis par les mers, ceux qui viendraient à voir le climat de leur culture traditionnelle bouleversé, par nécessité, devront se mettre en mouvement. Et ces mouvements ne tiennent aucun compte des frontières, ne tiennent aucun compte des alliances, ne tiennent aucun compte des décisions politiques qui sont prises et qui n'ont pas de conséquences directes pour soulager les conditions de vie de ces populations. Et cet événement intervient au moment où l'ordre économique est lui-même dominé par une structure nouvelle, elle aussi métastable, c'est-à-dire à la limite de l'équilibre, qui est la formation d'une énorme bulle financière sans rapport avec la production réelle. Le capitalisme transnationalisé, financiarisé, n'est pas seulement un ordre économique, c'est un ordre intime dans les prescriptions, les injonctions qu'il fait, et même jusqu'à la construction de notre manière de penser et de nous regarder. Les rythmes qui sont ceux du capitalisme de notre époque, sont toujours les rythmes des dominants. Le temps dominant est celui du capital, puis celui de la production, et en résiduel, celui de la vie intime. Raison pour laquelle les séquences temporelles de notre époque donnent tout le pouvoir au temps zéro, c'est celui de la finance. Je vous invite à regarder de plus près cette question du changement dans la hiérarchie des nations, car le jour où les États-Unis d'Amérique ne seront plus les premiers, ils ne seront pas les seconds. Ils seront immédiatement les derniers, pour la raison que quand ils payent pour 60, ils reçoivent pour 100. Tel est l'avantage du crédit sur le reste du monde qu'ils se sont donné avec leur monnaie. Et c'est ce qui explique leur agressivité. La dernière mutation, c'est la plus importante. C'est la mutation anthropologique. La bifurcation anthropologique. Anthropos, c'est le mot en grec pour dire l'être humain, homme ou femme. Nous ne sommes plus les mêmes êtres humains qu'il y a une génération, car les êtres humains sont des êtres de culture et des êtres sociaux. Dès lors que leur condition sociale est modifiée radicalement, ils sont modifiés dans leur nature même et dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. La première des causes de cette bifurcation anthropologique, c'est le nombre. Je suis né dans un monde où il y avait 2 milliards d'êtres humains. Il y en a aujourd'hui 7. L'histoire montre, l'histoire de la démographie montre, que chaque fois que l'humanité double, elle franchit un seuil dans son mode d'organisation et dans son mode de production. Les petits groupes humains, quand ils se développent et qu'à la faveur de certaines circonstances, ils finissent par être plus nombreux, ne peuvent plus apaiser la faim par la cueillette. Tout simplement parce qu'il faut se déplacer sur des distances de plus en plus grandes et que la ressource spontanée ne suffit pas. Il aura donc fallu obligatoirement passer à l'agriculture, et ceux qui sont les premiers passés à l'agriculture ont acquis un avantage technique sur tous les autres qui leur a permis de se reproduire et de voir leur groupe humain se développer plus vite que ceux qui n'y étaient pas passés. Donc, nous ne vivons plus de la même manière parce que nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus étroitement dépendants les uns des autres que nous ne l'avons jamais été à aucun autre âge de la civilisation humaine. On ne naît plus à la maison, on ne meurt plus à la maison,
On ne fait pratiquement plus rien tout seul. Pour chaque chose, on a besoin d'une organisation sociale extrêmement complexe. Notre plus grande interdépendance a en même temps permis notre plus grande individualisation. Mais n'allons pas confondre le processus d'individualisation avec le processus de personnalisation. C'est-à-dire, certes, nous sommes de plus en plus seuls et dépendants d'une machine en tant qu'individus. Nous sommes des ayants droit, des numéros de la sécurité sociale, de ceci, de cela, avec tel code dans tel endroit, tel mot de passe dans tel autre, ça c'est clair. Mais la personne, c'est ce qui en nous est constitué par la relation aux autres et la relation sociale et culturelle aux autres. Ça s'est développé et intensifié. Et deuxièmement, le monde bifurque parce qu'il est plus jeune qu'il n'a jamais été dans toute son histoire. La moitié de la population mondiale a moins de 25 ans. Un quart de la population mondiale a moins de 15 ans. La plupart des décideurs actuels continuent à penser dans les catégories d'un monde qui a totalement et définitivement disparu. J'ai parlé du nombre, j'ai parlé de la corrélation. Savoir lire, écrire et compter, mais surtout lire et écrire, a un résultat politique, social et intime suivant. Vous êtes libérés de la tradition orale. Car comme vous le savez, les religions vivent surtout par les curés et les frontières par les gardes-barrières. À tout instant, celui qui sait, celle qui sait lire ou écrire, peut se référer à une autre culture, à un autre interlocuteur. Donc cette éducation aujourd'hui, c'est 60% de l'humanité. Vous remarquerez qu'il en reste encore 40%. Il y a dans notre société française 2,5 millions à 3 millions d'illettrés. Ce ne sont pas des analphabètes, mais ils n'ont pas la pratique fluide de la lecture. Imaginez ce qu'est la vie quand on ne sait ni lire ni écrire. On voit donc quel bond extraordinaire représente ce niveau d'éducation. De même, je n'entre pas dans les détails, que l'élévation du niveau moyen d'éducation des peuples. Et en particulier dans nos sociétés. Avec comme phénomène corollaire la féminisation de l'éducation et la présence des femmes dans les positions d'instruction les plus élevées. Les premières sacrifiées de la méséducation étaient les femmes. C'est ce qui va m'amener maintenant à l'exemple que je veux citer pour bien faire comprendre la révolution que représente cette bifurcation anthropologique. Quel est le résultat de tout ça? C'est la question de la contraception, qui est aujourd'hui à la portée de plus de 50% des femmes dans le monde. Quelles conséquences ça a? Qui change tout? C'est que ce qui était hier une aptitude biologique était par évidence, par obligation, du fait de la réalité, devenait un destin social, auquel les femmes ne pouvaient se soustraire sauf à un héroïsme qui les rendait plus héroïques que les autres. Le fait que cette aptitude biologique ne soit plus obligatoirement un destin social change complètement la face de l'humanité. Et il suffit de voir comment l'âge de la naissance du premier enfant pour une femme est reporté de plus en plus pour comprendre quelle importance ça a sur les parcours de vie et la construction de soi que chaque être peut organiser dans ses conditions, c'est-à-dire les conditions d'une liberté plus grande à l'égard de ses déterminations. Dans ce monde, en bifurcation écologique, en bifurcation géopolitique, en bifurcation anthropologique, quelles sont les réponses aux défis? Je ne dis pas la réponse idéologique, quel est le meilleur des mondes auquel nous rêvons? Comment répondons-nous concrètement à la menace concrète qui se présente devant nous? La menace qui résulte de la bifurcation du climat, celle qui résulte de la bifurcation géopolitique et financière, et celle qui résulte du fait que nous avons changé, nous sommes d'autres êtres humains. Nous avons à notre disposition pour l'instant trois doctrines. La première, c'est concrètement effondrée. C'était celle du communisme d'État. Mais nous en avons deux autres. La première, c'est la réponse libérale. Elle considère que la manière la plus efficace d'organiser l'activité humaine, c'est de s'en remettre au mécanisme spontané, considéré comme un ordre de la nature, de la concurrence libre et non faussée. Chacun agissant pour son propre compte, du mieux pour ses propres intérêts, il en résulterait au final une organisation générale où chacun trouvera son compte. Dans l'ordre intime, chacun fera bien comme il le sent à ce sujet, mais dans l'ordre économique, ça donne ce que vous connaissez. C'est-à-dire une incitation permanente au productivisme. Produire toujours plus, n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, du moment que ça coûte pas cher et qu'on peut le vendre à un maximum de gens, et si possible à la place de ceux qui le faisaient déjà. Il faut donc, pour y parvenir, créer sans cesse des besoins, y compris quand ils n'existent pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le capitalisme n'était pas seulement un ordre économique, c'est un ordre culturel dont le fondement est la frustration. L'ordre culturel du capitalisme, c'est la frustration, l'insatisfaction de soi, l'insatisfaction de ce que l'on a pour vouloir autre chose, mieux, plus, davantage, etc., etc., jusqu'à l'absurde de l'accumulation des objets sans aucune espèce d'utilité. Des besoins tellement formatés que certains produits qui ont leur efficacité de valeur d'usage n'en ont aucune du point de vue de la valeur d'échange, compte tenu de la façon avec laquelle les goûts ont été formatés. Vous le savez. 40% de la production agricole est jetée à la poubelle. 40% de la production agricole. Ça aussi, c'est un fait anthropologique nouveau. Autrefois, l'humanité grignotait jusqu'au dernier grain de blé. Le fondamental, c'est que ces objets ne correspondent pas à votre attente. Vous n'achèterez pas une pomme grumeleuse. Vous n'achèterez pas une carotte biscornue. Vous n'achèterez pas un melon qui n'a pas la forme parfaite, etc., etc., etc. On détruit beaucoup pour que cela corresponde au goût que l'on a formaté. Ceux qui hier produisaient des petits produits agricoles qu'ils échangeaient, parfois en monnaie locale, en tout cas même en monnaie nationale, qui n'apparaissaient jamais dans la statistique mondiale. Ces productions sont abandonnées et on y fait des productions de masse, productivistes, du riz ou autre chose, ou du blé ou du maïs, dans des quantités immenses, qui elles apparaissent sur le marché mondial, apparaissent dans le calcul de la richesse du pays tel qu'il est imaginé aujourd'hui par la valeur PIB, ils apparaissent. Mais la disparition des autres productions, elle n'est jamais soustraite. Pourtant, la soustraction n'est pas seulement économique, elle est sociale et culturelle. Là où on est passé d'un ordre de production à un autre, tout a été détruit. La vie du village, les multiples petits producteurs, les échanges qui existaient entre eux, les coutumes, les relations, la culture qui se transmettait à propos de ces productions, qu'elles soient agricoles, culturelles, les choses allaient souvent ensemble, vous le savez aussi bien que moi. Car la plupart des faits culturels sont corrélés à l'activité productive agricole des peuples. C'est comme ça dans toutes les civilisations du monde. La doctrine libérale met au poste de commande intime la compétition. C'est une impasse. C'est aller à rebours de toute l'histoire de l'humanité depuis qu'elle existe. C'est parce que c'était pas que chacun pour soi que nous sommes là. Nous sommes les descendants de ceux qui n'ont pas fait chacun pour soi. Ceux qui ont fait chacun pour soi, ils sont morts. Ils ont disparu avant les autres parce que d'abord, personne ne les supportait et donc on les foutait dehors, on les bannissait. Et deuxièmement, quand on les avait avec soi, ils étaient tellement irresponsables qu'ils étaient les premiers à disparaître avant même de s'être reproduits. La solidarité est la base de l'existence de l'humanité. Bien sûr, le principe de compétition est à l'œuvre, on le sait bien. Compétition amoureuse, compétition pour toutes sortes de choses. Mais cette compétition s'arrête devant l'exigence de la nécessité de la solidarité. Et c'est ce qui a fait l'humanité. Les libéraux prétendent que c'est l'inverse. Il faut que la compétition soit reine et qu'elle ne s'arrête en aucun cas à la solidarité. La solidarité tant qu'on veut, aussi longtemps que ça ne bride pas la compétition. Mais surtout dans l'ordre économique, ça ne peut conduire qu'à une chose, le productivisme. Et le productivisme, au minimum, en dehors de toute autre considération sur l'accumulation, sa légitimité ou pas, la propriété privée ou pas, avant même toute autre chose, le productivisme est l'enfant du libéralisme et le productivisme conduit à la fin de l'écosystème dans lequel nous vivons. La deuxième théorie dont nous disposons, c'est celle de la social-démocratie. En l'acceptant dans son honnêteté, c'est-à-dire en faisant comme si ceux qui la professent y croyaient vraiment. Ça part de l'idée suivante. La révolution est inutile et dangereuse. Il faut corriger progressivement pour aller vers l'état d'égalité sociale, pas une action de justice sans être renforcée. Ça, c'est la base du socialisme et du réformisme progressiste. On ne doit pas le rejeter comme ça en disant tout ça ne vaut rien. C'est quelque chose qui a eu du sens à un moment donné, qui, à mon avis, n'en a plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il dit, nous allons corriger l'inégalité de la société en partageant les fruits de la croissance. Entendez bien la phrase comme vous l'entendez. Répartir autrement les fruits de la croissance. Deux erreurs en une phrase. Parce que ça suppose que le gâteau initial qui est inégalement réparti, on n'y touche pas. Mais que on va répartir les fruits de la croissance. La première erreur est politique, car le gâteau en question n'est pas un gâteau abstrait, il est porté par des catégories sociales qui n'ont pas du tout l'intention de voir cesser les privilèges qui leur ont permis d'accumuler jusqu'à ce point. C'est donc une erreur de stratégie. Si on ne reprend pas à ceux qui ont déjà tout, on est certain qu'on ne partagera pas la suite de manière plus égale, parce qu'ils vont, légitimement défendre leurs intérêts. Deuxième erreur, c'est partager les fruits de la croissance, suppose donc qu'on corrige l'inégalité fondamentale par une croissance sans fin, dans un monde dont nous venons d'apprendre qu'il est fini, c'est-à-dire fini au sens de pas infini. C'est Paul Valéry qui disait ça, le temps du monde fini est commencé. Bon, voilà. Troisième élément dont nous disposions, c'est le communisme, mais dans la seule version qu'on ait jamais connue, qui est le communisme d'État. On l'appelle comme ça c'était un raccourci plus facile pour nous tous et ça n'offense personne. Mais Boukharine disait que le communisme allait régler les problèmes par le développement des forces productives. Et comme le communisme s'est installé pour la première fois dans un pays extrêmement retardé du point de vue du développement des forces productives, et plus que pour contenter les besoins essentiels, il fallait procéder à l'intérieur du socialisme à l'accumulation qui a été réalisée ailleurs dans les sociétés bourgeoises pendant plusieurs siècles. L'accumulation primitive devait être réalisée. Elle l'a été quasiment de force. Enfin, quand je dis quasiment, je ferais mieux dire, elle a été de force. En brutalisant le système et les populations dans des conditions telles qu'il a créé la propre catégorie sociale qui a défendu un ordre injuste et qui elle-même a été pétrie d'une idéologie qui font qu'ils n'ont eu aucun mal à passer du statut de bureaucrate stalinien à kleptocrate et oligarque comme nous les voyons aujourd'hui partout. Mais pour autant, l'intuition initiale du communisme n'est pas démentie. Le moyen qui a été utilisé pour le faire vivre s'est avéré être totalement erroné, de la même manière qu'on ne va pas dire que la social-démocratie, son aspiration à la justice sociale, est démentie par le moyen inapproprié qu'elle utilise. Et même, je vais dire, que le libéralisme, perçu comme une exigence de liberté, parce que c'est comme ça que comprennent les gens, de liberté individuelle, serait démenti par la manière abominable avec laquelle il est pratiqué. Il y a une règle que nous pourrions poser comme étant celle qui nous permet d'organiser tout le reste. Et cette règle, c'est ce que nous avons appelé la règle verte. Ne jamais prendre davantage que ce que la nature est en état de reconstituer. Cette règle verte nous permet de répondre à la question de la dette écologique, qui, vous savez, c'est le moment, une des images qui permet d'en rendre compte, c'est le moment de l'année où on consomme des choses que la planète ne pourra pas reconstituer. Et on s'aperçoit que cette date recule dans l'année. Eh bien, cette année, par exemple, nous sommes entrés en dette écologique le 20 août. La règle verte est la réponse à la question de la dette écologique. Et surtout, c'est celle qui nous permet de penser la production et ses développements, la relance de l'activité et ses développements, avec une règle écologique qui soit tenable et qui ne soit pas de la métaphysique, des injonctions morales, de la culpabilisation des gens, comme trop souvent on voudrait faire croire que l'écologie est le porteur. Ça ne sert à rien de rendre les gens responsables de consommation dont ils ne sont pas responsables. Les véhicules diesel, si les gens en ont acheté, ce n'est pas pour pourrir l'air des autres. C'est parce qu'on leur a donné des conditions financières qui leur permettaient de les acheter à moindre coût. Et aujourd'hui, ils ne sont pas en état de changer leur véhicule. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir un véhicule parce qu'il n'y a pas de transport public entre le lieu où ils vivent et où ils ont été chassés du fait que les centres-villes sont devenus absolument invivables du fait du coût que ça représente et qu'ils sont allés habiter loin. La règle verte nous permet, branche par branche, activité par activité, thème par thème, de repenser ce que nous sommes en train de faire. Et donc de faire appel à l'imagination et à l'inventivité de tous. Ce n'est donc pas une régression intellectuelle ou un rejet du progrès que le contenu de ce paradigme écologique. C'est l'inverse. C'est un appel à l'inventivité, à l'imagination, à l'investissement, à la création dans des conditions jamais vues, parce qu'il y a urgence. Et parce qu'il y a urgence, parce que la mer monte, pour résumer, il faut plus de solidarité que jamais et moins de compétition entre ceux qui empêchent à se sauver.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo. Et pourquoi pas voter Beauvais? Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, Total, GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entreturaient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète.
HK et les Saltimbanques, niquons la planète. Après cette entrée en matière théorique, on continue sur cette conférence sur l'écosocialisme en découvrant un petit peu plus qu'est-ce que c'est vraiment que l'écosocialisme, et on va nous l'expliquer tout simplement.
Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Ce point est crucial. Il objective tous les autres rapports politiques que je vais maintenant énoncer. Objectif, cela veut dire il donne valeur de nécessité à tout ce que je vais dire. Nécessité au sens où on l'utilise dans le vocabulaire philosophique, qui ne peut pas ne pas être. D'obligation en quelque sorte. S'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, il y a donc un intérêt général humain. Il y a un intérêt général humain parce que nous sommes tous semblables, parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Dans ces trois phrases-là, vous avez les trois doctrines qui ont animé le mouvement progressiste. S'il n'y a qu'un seul écosystème et si nous sommes tous semblables, alors l'intuition fondamentale de l'égalité politique est vérifiée objectivement. Deuxièmement, si nous sommes tous semblables et qu'il y a un intérêt général humain, la question de savoir comment on trouve cet intérêt général humain est prioritaire. Mais surtout, ça affirme que s'il y a une condition humaine unique, qu'il y a un intérêt général humain unique, il y a donc une condition humaine unique, et que tout être humain peut y accéder. Et pas seulement du point de vue de ses intérêts de classe, mais en tant qu'être humain. Ce qui veut dire que les idées sont bien sûr la projection des conditions sociales dans lesquelles se trouvent placés les individus, bien sûr, mais que pour autant, elles ne sont pas réservées aux individus qui ont le plus à pâtir du système. Et donc, pour nous, pour les stratégies politiques, pour les programmes, nous avons à rechercher de quelle manière unifier à l'intérieur du projet éco-socialiste la totalité de ceux que nous pouvons interpeller en tant qu'êtres humains. Cette idée, on va l'approfondir dans un instant. Je reste donc, il y a un intérêt général humain, comment le trouver? Par l'unique moyen dont nous disposons, notre sensibilité et notre raison. Par conséquent, nous postulons que nous ne sommes jamais sûrs d'avoir trouvé la bonne réponse. La définition de l'intérêt général humain est toujours provisoire, limitée et réversible. Il ne faut prendre que des décisions réversibles, du point de vue de la philosophie qui inspire l'écosocialisme. On voit donc que dans certaines décisions, quel que soit par ailleurs l'intérêt qu'elle pourrait présenter pour tel ou tel d'entre nous intellectuellement, on ne doit pas prendre de décisions qui sont irréversibles. Quand on met en route une production d'énergie, si sûre qu'elle soit, si garantie qu'elle soit de toute sécurité, comme le nucléaire, le simple fait que les déchets ultimes ne sont pas réversibles avant plusieurs millénaires nous interdit d'y avoir recours. Non pas par responsabilité de l'instant, mais par responsabilité sur la durée du temps long. L'intérêt général humain ne peut être trouvé que par notre raison, encore faut-il la construire. D'où l'importance essentielle de l'accès à l'éducation. Et si nous devons la construire par l'éducation, il faut que nous puissions le faire librement. On ne délibère pas librement si les uns dominent les autres. La délibération libre est celle qui se fait entre égaux. Il n'y a pas de délibération libre sur l'avenir de telle ou telle situation entre gens où l'un domine l'autre et où les intérêts de l'un, évidemment, dominent ceux de l'autre. Que ce soit dans l'ordre général des catégories sociales ou dans l'ordre particulier des relations humaines entre hommes et femmes. Et ensuite, dans l'arène politique, lorsqu'on vient à faire choisir entre des programmes, chacun d'entre nous est appelé non pas à dire ce qui est bon pour lui, ce qui est la démocratie, on lève la main, et 51 ont raison sur 49. C'est absurde. Mais c'est la règle qu'on s'est donnée. Il en faut bien une. On peut décider que c'est pas 51, on peut décider que c'est 52. Mais n'empêche, à un moment donné, c'est le nombre qui va déterminer la décision. La décision, pas la conviction. La démocratie n'a pas à former des convictions. Une fois qu'on a décidé, on applique parce qu'on respecte la règle. Nous nous soumettons à des lois absurdes et injustes. Et nous les combattons pour qu'elles changent. Mais nous nous soumettons à elles. Chaque citoyen est appelé non pas à dire ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous. La citoyenneté, c'est dire ce qui est bon pour tous et exercer le pouvoir de dire ce qui est bon pour tous. Et ce qui est bon pour tous, c'est la République. C'est la chose commune. Voilà comment s'enchaîne l'intuition fondamentale du communisme, qui est de dire qu'il y a des biens communs, à commencer, sans entrer dans les détails, par l'écosystème. C'est un bien commun par définition. Donc il existe bien des biens communs inaliénables qui fondent un intérêt général. Vous avez compris le revers. L'intérêt général doit donc toujours être supérieur aux intérêts privés, il passe avant, ou aux intérêts particuliers. Voici donc fondée l'idée de la loi qui s'impose contre l'ordre spontané des relations mécaniques, du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée, de la loi, etc. Ça, c'est l'intuition républicaine. Et puis, on ne peut délibérer librement que si on est égaux. C'est l'intuition du socialisme en général. Voilà comment nos trois doctrines peuvent converger dans la construction philosophique de base de l'écosocialisme. L'écosocialisme, ce n'est donc pas les pages écologiques du programme socialiste. C'est la reconstruction de l'ensemble de la pensée socialiste et communiste, pour me référer aux idéologies progressistes immédiates. J'ai oublié de citer l'anarchisme parce que ça m'amènerait à une trop grande promiscuité intellectuelle avec, parce que moi je me sens plutôt libertaire de nature. Je l'ai découvert assez tardivement, mais comme je ne supporte pas qu'on me donne des ordres, j'en déduis qu'il y a plus de monde que je ne le croyais qui doit être dans le même état que moi. Mais je pense que l'intuition libertaire, elle est fondée par ce que je viens de dire. C'est une aspiration à une radicale liberté intellectuelle personnelle et à une domination de soi sans concession. Voici formulée en quelques mots la doctrine de l'écosocialisme. À quel prix est-elle possible? C'est nécessairement au prix d'une révolution. On ne peut pas imaginer une transition volontaire de l'ordre actuel avec la domination des intérêts particuliers qui s'y expriment sans aucune retenue à l'heure à laquelle nous parlons, et un peu plus dans notre pays aujourd'hui qu'hier. On ne peut pas imaginer que le changement se ferait par consentement éclairé. Les sociétés restent le lieu du conflit d'intérêts. Et c'est donc à l'intérieur de ce conflit qu'il faut proposer les solutions qui sont perçues par le grand nombre comme correspondant à l'intérêt général, mais en même temps qui nous permettent d'aller jusqu'au bout. Je parle donc de révolution citoyenne. Je demande, je suis obligé d'aller aussi vite que je peux, qu'on ne croie pas qu'il s'agit d'une euphémisation communicationnelle de la révolution socialiste que je vous resservirai dans un emballage plus frais pour vous la faire avaler plus facilement. La révolution socialiste met à l'ordre du jour les tâches socialistes. La révolution citoyenne met d'autres tâches à l'ordre du jour, notamment les tâches du programme écologique, qui ne correspondent pas toujours à l'ancien programme socialiste et qui peuvent le contredire, notamment sur l'idée de la croissance sans fin ou de toute technique est bonne par essence sans qu'il y ait besoin d'en délibérer. Libérer le mot révolution de son fatras d'imagerie d'épinal qui n'appartient pas à la tradition de gauche, qui est en général la caricature qu'en ont fait nos adversaires. Alors, les hommes hirsutes et à moitié nus qui bondissent avec des femmes dépoitraillées sur des barricades en se tirant des coups de fusil avec les autres et qui rêvent d'aller se flanquer des coups de bâton, ça n'a jamais été le programme de la révolution socialiste nulle part, à aucun endroit du monde. C'est une révolution quand on change les institutions. Et quand on change, qui a le pouvoir? Deuxièmement, c'est une révolution quand on change l'ordre juridique. Et l'ordre juridique de l'écosocialisme place au premier plan la solidarité et au dernier plan la compétition. C'est enfin une révolution dans l'ordre de la propriété. Car sans entrer dans la question de savoir s'il faut tout prendre ou pas, ce qui est absolument certain, c'est qu'un certain nombre de choses doivent être prises et ramenées au collectif et au commun. Comme les biens de première nécessité, je n'en citerai qu'un, l'eau. Mais on pourra dire bientôt l'air. Et par conséquent, tout ce qui a besoin d'air pourrait être très rapidement réexaminé. Et en tout cas, l'énergie, qui ne peut pas être une production privée, puisque la production privée est indifférente aux moyens qu'elle utilise. Voilà en quoi c'est une révolution dans les trois directions, institutionnelle, juridique et l'ordre social de la propriété. Elle est citoyenne, ce mot est essentiel. Toutes les révolutions dans l'histoire, vous les avez regardées. Moi, je ne parle pas pour les plus jeunes, je ne sais pas comment vous regardez. Mais nous les avons tous regardées pendant longtemps comme des préfigurations des révolutions socialistes. Nous en apercevions le contenu social. Nous disions les conditions n'étaient pas réunies pour aller jusqu'au socialisme. Par exemple, si on examine la révolution d'Étienne Marcel, personne n'imagine que sous Charles V, on aille proclamer le socialisme. Le niveau de développement des forces productives, des relations sociales, ne le permettait pas. Il y avait des formes de communisme primitif, pourtant, à cette époque. Mais c'est une révolution, et on l'a regardée comme ça, on apercevait son contenu social. La révolution citoyenne, c'est celle qui met à l'ordre du jour les tâches d'intérêt général et utilise les méthodes du socialisme pour les accomplir, les intuitions du communisme pour les comprendre, et les méthodes qui sont celles de l'écologie politique pour les régler. Mais ça nous permet de regarder d'un œil nouveau tout ce qui s'est passé avant nous et d'en voir la préfiguration. Et on peut se dire d'une certaine manière que toutes les révolutions du passé sont des révolutions citoyennes, c'est-à-dire qui mettent à l'ordre du jour le pouvoir du grand nombre sur la chose collective, quel que soit le niveau de développement des forces productives de l'époque considérée. Je considère que si vous prenez une révolution du passé et que vous la comparez à celle que vous observez dans le présent, vous en voyez les caractéristiques communes. Depuis les Romains qui se retirent sur l'Aventin parce qu'ils ne veulent plus travailler aussi longtemps qu'ils ne partageront pas le pouvoir avec les nobles et les sénateurs romains, jusqu'à toutes les révolutions du Moyen-Âge, combien sont marquées par cette idée que c'est le collectif qui va décider. Mais aujourd'hui, de toute façon, elles sont citoyennes. Je veux dire que ce sont le fait de populations urbaines, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans ma bifurcation anthropologique. Le monde est urbanisé, fait radicalement nouveau. Jusqu'à il y a à peine 40 ans, la majorité de la population vivait en milieu rural par petit archipel de groupes humains. Aujourd'hui, la majorité de la population, aux alentours du 60%, vit en milieu urbain, c'est-à-dire quotidiennement interpénétré, intercorrélé. Les révolutions du quotidien sont des révolutions urbaines. Et par conséquent, elles prennent immédiatement un aspect d'intensité bien supérieure à celle des révolutions socialistes du passé, où le pouvoir se reconstruisait à travers les conseils d'usine. Toutes les révolutions de notre époque sont des révolutions citoyennes. Celles qui ont eu lieu en Amérique du Sud, sans exception, et celles qui ont commencé dans le Maghreb sous nos yeux, l'ont toutes été. Pour mieux le faire comprendre, je vais prendre l'exemple d'un de mes très bons amis qui est un des leaders du mouvement sans terre au Brésil. Les gens surgissent à l'impromptu alors qu'il y a un gouvernement de gauche et disent le football on s'en fout, on veut des transports publics développés. Les stades on s'en fout, on veut des hôpitaux qui fonctionnent. Comment les Brésiliens pensent à autre chose qu'à la samba et au football? C'est un peu comme ces Arabes qui au lieu de se battre pour des histoires de religion, se battent pour obtenir le droit au travail, l'égalité, la laïcité, l'émancipation individuelle. Décidément. Et alors, un journaliste interviewe mon camarade, et alors l'intervieweur lui dit « Mais on ne comprend pas, c'est des revendications socialistes et il ne se passe rien dans les usines. » Que répond le camarade? Il se sent obligé de défendre une doxa, une doctrine. Il dit « Ah si, 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 dans telle et telle usine, il y a eu une pétition, il y a des... » Mais ce n'est pas le sujet. À votre avis, qui est dans la rue? Les bourgeois aux mains soyeuses ou les prolétaires aux mains calleuses? Tout le monde, c'est des salariés qui sont là. Mais la forme de leur mise en mouvement est une forme urbaine, citoyenne, qui n'est pas celle de la revendication à l'intérieur de l'entreprise pour un autre partage de la richesse. Il s'exerce à l'échelle de la loi et de la société. Mais tant mieux, 10 000 fois tant mieux, ça veut dire que le niveau d'éducation s'est élevé assez pour que les gens se pensent comme composantes et prenant en charge toute la société et pas seulement un secteur qui est censé libérer tous les autres. L'histoire a été résumée à un aspect, la vision soviétique du monde, c'est-à-dire la transformation révolutionnaire par l'émergence des soviets. Quand la révolution de 1917 a lieu, il n'y a pas que des soviets d'ouvriers, il y en a d'ailleurs fort peu, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, très peu d'usines. Ce sont des soviets de soldats, ce sont des soviets de femmes, ce sont des soviets de paysans, des soviets de quartier. Bon, soviet, qu'est-ce que ça veut dire? Conseil. Qu'est-ce qu'un conseil? Une assemblée citoyenne. Si bien que la base de la révolution citoyenne, c'est l'assemblée citoyenne, à ne pas confondre avec un meeting du front de gauche. L'assemblée citoyenne, c'est des gens s'investissant en commun pour régler en commun les problèmes. Il faut donc respecter l'idée d'assemblée citoyenne. La base de la révolution citoyenne, ce sont les assemblées citoyennes. C'est pourquoi les assemblées citoyennes faisant la révolution citoyenne se donnent pour premier objet politique le peuple de se constituer en tant que peuple acteur et pas en tant que somme d'individus agissant en faisant une constitution. C'est pourquoi les processus de révolution citoyenne, chaque fois qu'ils ont lieu, doivent donner lieu à une constituante. Eh bien, la discussion qu'il y a là est fondamentale. Qui prend le pouvoir? Le parti révolutionnaire? Il est une avant-garde? Il est une incarnation de la classe agissante qui va se libérer et libérer tous les autres? Ou bien le peuple lui-même? Quand on dit c'est le congrès en russe des soviets qui doit prendre le pouvoir, on dit c'est le peuple lui-même. On dit c'est l'assemblée des conseils. Et ça, pour moi, dans l'écosocialisme, c'est fondamental. Ce n'est pas les grands révolutionnaires omniscients font une concession à l'adversaire en acceptant qu'il y ait de la démocratie. C'est que nous avons besoin de la démocratie comme moyen de confrontation. Donc nous avons besoin d'une démocratie contradictoire, pas d'une démocratie où tout le monde est d'accord. Nous avons besoin du conflit, nous avons besoin de l'opposition, de la contradiction des points de vue, parce que c'est la condition pour trouver le chemin. Ce n'est pas l'unanimité. Et de même que le conflit crée la conscience, tandis que le consensus l'étouffe et pousse à la routine, de la même manière, c'est le conflit le moteur de la pensée, la contradiction. Ce n'est donc pas une concession, c'est consubstantiel à la doctrine éco-socialiste. Nous avons besoin de la contradiction et de la liberté absolue de discussion. La liberté absolue de discussion veut donc dire le contrôle de ceux qui rendent possible ou non cette discussion. Je veux dire donc des moyens médiatiques. Parce que si nous devons avoir l'indépendance et la diversité de la presse pour avoir le droit de dire tous la même chose, ça n'a aucune espèce d'intérêt pour la démocratie. Et c'est là-dedans que nous vivons, ou à peu près aujourd'hui. Ce point de la révolution citoyenne est l'outil de l'écosocialisme. Il y a une connexion totale entre la doctrine écosocialiste et le moyen qu'elle utilise pour prendre le pouvoir. Et donc de l'outil politique qui rend possible cette transformation. Le parti d'avant-garde ne sert à rien. Nous avons besoin d'un parti éclaireur. Le parti peut apporter la forme, que ce soit un front ou ce qu'on veut. Mais autrefois, pendant des générations, on a réfléchi à ce parti. Le parti qui concentrerait et qui serait l'avant-garde. En plus, professionnel pour certains. Alors, on est arrivé au bout du truc. Nous avons besoin d'un parti éclaireur. C'est-à-dire qui met la lumière sur tous les aspects de la situation. Bien sûr, pour aider à apercevoir ce qui nous intéresse pour avancer dans notre direction. Mais qui met la lumière sur tous les aspects. La compréhension appelée par une conscience révolutionnaire, c'est une compréhension large, ouverte, intégrant tout ce que les savoirs de son temps permet d'avoir à l'esprit pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment et discerner. Parce que discerner est une activité intellectuelle qui nécessite des outils. Il ne suffit pas de voir pour savoir. Il faut pouvoir discerner. Il ne suffit pas de regarder pour comprendre. Et des fois, c'est en regardant qu'on ne comprend plus rien. Car la réalité est toujours à deux plans. Le premier, c'est celui de notre sentiment immédiat, de nos sens, de notre imagination spontanée. Et le second est celui de la mise à distance qui permet la compréhension des articulations réelles entre les éléments de la réalité. La compréhension résulte du conflit. Le conflit crée la conscience a besoin de lumière. Et ensuite, nous avons besoin d'un parti déclencheur. Déclencheur, c'est-à-dire mettant à profit ce qu'il est seul capable, oui, d'incarner, la mémoire. La mémoire des luttes, la mémoire du temps qui a passé, l'expérience de ce qui ne sert à rien et le savoir de ce qui sert à quelque chose. Le souvenir des personnes, l'apprentissage de l'œuvre des autres, pour se nourrir soi-même et s'agrandir soi-même du travail intellectuel des autres. Donc nous avons besoin d'un parti déclencheur, c'est-à-dire qui, sachant tout cela, propose les opportunités d'entrer dans l'action en direction des cibles que l'on vise. Évidemment, à chacun d'entre nous d'être à la fois sachant, connaissant et stratège. Nous le sommes tous dans notre milieu, tous sans exception. Ça n'a rien de monstrueux de parler de savoir stratégique. Et ce savoir stratégique, c'est ce qui donne de la force. Mais moi, je suis très fier d'avoir pu être ce porte-parole qui dit « il n'y a qu'une consigne, n'attendez pas les consignes ». Et de savoir que j'étais immédiatement compris par tout le monde, parce qu'en effet, personne n'avait besoin de consignes, tout le monde savait ce qu'il avait
à faire. Ça va ? Tout va bien. Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Où l'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, le groupe en nous, et demain, la international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain international sera le genre humain.
Beaucoup là. J'espère que ça vous a... Il faut planer de temps à autre, sinon on ne voit pas plus loin que le guidon. Bon, il faut quand même que j'entre au moins dans un point. Je vous fais grâce des autres, pourtant il me tient à cœur. Je vais vous saouler, comme d'autres, avec un des résumés qui me permet de rendre concret tout ce que je viens de dire. Je vous ai parlé de l'expansion des êtres humains. Nous sommes 7 milliards. Nous atteignons les limites de l'occupation de la Terre. D'abord parce que 40% des sols sont déjà arrivés. L'expansion humaine doit continuer. Nous avons commencé à décoller de la Terre. Depuis Yuri Gagarin, les êtres humains sont capables de sortir du globe. Donc, où est-ce qu'elle va aller, cette humanité ? Dans les étoiles, oui. Mais il va falloir y aller drôlement vite. Parce que le rythme d'accroissement de la quantité des êtres humains va plus vite que la capacité qu'on a à trouver les moyens de franchir les distances infinies qui nous séparent éventuellement des mondes habitables que nous trouverons immanquablement. C'est donc en mer que les choses vont se passer.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez.
La mer, c'est 70% de la surface du globe. C'est 95% des espèces vivantes, dont 90% sont inconnues aujourd'hui. La mer, c'est un espace juridique vide au-delà de 200 000 marins. Tout ce qui est au milieu est à personne. À personne au sens radical, c'est pas à tout le monde. C'est à personne. Donc il s'y passe n'importe quoi. La mer plus la modification du climat, c'est une transformation extrêmement importante de l'économie humaine qui apparaît si la catastrophe n'arrive pas avant que cette mutation ait lieu. J'en donne un exemple. La fonte du pôle Nord ouvre de nouvelles voies maritimes, vous en avez tous entendu parler. Mais la conséquence n'est pas seulement celle que vous croyez. D'abord, ils vont se peler entre eux pour savoir à qui appartient le passage. À qui appartient tout. C'est les guerres traditionnelles des êtres humains. À qui? Aux Danois, aux Russes, aux Américains? À qui? Ça commence déjà. Mais c'est pas seulement ça. C'est que si vous faites passer des bateaux par la voie Nord, vous n'avez plus besoin de passer par le canal de Panama ni le canal de Suez. Donc, vous n'avez plus besoin de limiter la taille de vos navires à la largeur acceptée par ces canaux. Si bien que vous pouvez construire des navires infiniment plus grands, infiniment plus larges, parce qu'on sait le faire. Et donc, vous facilitez la délocalisation permanente du monde, c'est-à-dire la production de n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, mais surtout n'importe où, parce que c'est transportable à peu de frais. Vous voyez l'impact. Mais je reviens à la mer. La mer change tout pour nous. Et maintenant, je vous parle comme stratège, si j'ai le droit de parler en ce nom. Si nous faisions une révolution citoyenne dans notre pays, personne ne peut imaginer qu'on nous laissera faire tranquillement. La dernière fois qu'on a essayé, toute l'Europe nous est tombée dessus. Bon, on les a raccompagnés. Mais au bout d'un moment, c'est eux qui nous ont raccompagnés. J'espère qu'on n'en viendra jamais à ça. Mais comment faire? Il est évident que le poids scientifique, intellectuel, culturel que nous pesons sera déterminant. C'est notre capacité à faire quelque chose qui corresponde à l'intérêt général, qui sera notre plus grande force de séduction sur le monde entier. Nous disposons du deuxième territoire maritime du monde. Pour que ça nous fixe bien les idées, la France est accrue de 10% sans tirer un coup de fusil. Sous le gouvernement de Lionel Jospin, car l'ONU avait dit, ceux qui peuvent prouver que leur plateau continental est bien continu jusqu'à je ne sais plus quelle distance supplémentaire, ceux qui peuvent le prouver, c'est à eux. Et nous, les Français, nous disposons des bateaux et des navires qui nous ont permis d'établir que oui, c'était à nous. Et la France est accrue de 10%. Personne n'en a parlé. Mais imaginez-vous, pour vous faire une idée de la chose, qu'on se soit étendu de 10% chez les Belges, les Allemands et les Espagnols, juste pour donner une idée du genre de rock'n'roll auquel ça donnerait lieu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé tranquillement, sans un coup de fusil. La taille totale de la France, au-dessus de l'eau et sous l'eau, est l'équivalent de l'Inde, et c'est plus que la Chine. Silence glacé dans la salle. Quelque chose peut être glacé à cette heure. Ça veut dire que les arguments de la puissance, nous n'avons jamais cessé d'en disposer. La puissance, elle est militaire, bien sûr. C'est ce qui dissuade les autres de venir vous chatouiller. Mais avant toute chose, la puissance est intellectuelle. La mer nous offre un espace de développement qui changera les conditions de production sur Terre. L'humanité est déjà entrée en mer. Au début, quand je faisais le discours, je disais « va entrer en mer ». Et un jour, quelqu'un m'a dit « mais de quoi tu parles ?» J'ai déjà fait. On fait des forages en mer. On sort du pétrole de la mer. On sort des minéraux de la mer. On sort du gaz. Il est question de sortir du gaz de Chypre. C'est M. Cohn-Bendit qui a trouvé que c'était la bonne solution pour Chypre. Bonjour les écolos. Bon, donc la mer est une. Et l'entrée en mer se fait sur le mode capitaine, c'est-à-dire à la dégueulasse. Nous sommes entrés en mer parce que nous déversons continuellement des nitrates, parce que nous déversons dans la Méditerranée des boues rouges de bauxite, parce que, j'allais dire dans la circonscription, on ne sait même pas où c'est, à côté de Biscarrosse, on y déverse directement dans la mer des flots de saloperies. L'entrée en mer est faite. Il s'agit donc de la rendre responsable, et pour nous les Français, d'être une avant-garde, de montrer tout ce qu'on peut faire avec la mer. Parce que quand dans le programme on a dit on va sortir des énergies carbonées, tout le monde dit oui, oui, et le nucléaire, quand est-ce que vous en parlez? On va faire un référendum, ah bon, mais tout le monde ne parle que de ça. Bien sûr qu'il faut la transition énergétique et qu'il faut sortir du nucléaire, mais c'est pas tout, il faut aussi sortir des énergies carbonées. Il faut aussi sortir des énergies carbonées, il ne suffit pas de sortir du nucléaire. Donc il faut produire de l'énergie autrement, et il faut produire les matières premières qui sont les sous-produits aujourd'hui de l'énergie carbonée. Le pétrole, c'est pas seulement de l'essence pour vos bagnoles, c'est aussi la base du plastique et de tous les autres produits. Et du plastique, mes amis, il en flotte jusqu'à 20 mètres de profondeur, dans un septième continent qui flotte à la surface de la mer, dans cet endroit où personne n'est responsable de rien, l'équivalent de la moitié de la surface de l'Europe, en déchets qui flottent sur la mer. Donc il faut sortir de ça. Et ce sont des milliards de microparticules, des fois, qui sont là. Comment en sortir? L'aquaculture nous le permet. Comment ça? Nous savons faire l'équivalent du plastique avec des algues, c'est-à-dire des produits biodégradables. Il faut s'y mettre d'une manière ardente, rapide, efficace, de masse, en essayant de faire en sorte qu'on ne casse pas tout au passage et sans créer des inconvénients dont on ne mesure pas aujourd'hui la réalité. De la même façon, pour la production d'énergie, il ne suffira pas d'avoir des éoliennes ni des espaces photovoltaïques. D'abord parce que pour les faire, il faut du silicium. Le silicium, c'est le mot savant pour dire le sable. Eh bien, continuez à faire des trous pour prendre du sable. D'où croyez-vous qu'il sort? Eh bien, vous faites des trous, vous les enlevez des plages, vous les enlevez de la mer. Et que se passe-t-il? Le littoral change. Vous le savez tous, j'espère, maintenant. Le littoral change de plus en plus, et d'une manière de plus en plus, entre guillemets, catastrophique, c'est-à-dire non maîtrisée. Il y aurait intérêt à ce que le littoral ne change pas trop du côté de Blaye, hein, parce qu'au moment où ils l'ont construit, on peut envisager le cas. Donc, la mer nous permet de renouveler nos techniques, de faire appel à l'intelligence collective et de mobiliser des moyens. Voilà pourquoi je considère que la grande idée de la doctrine éco-socialiste, qui est de passer à la planification écologique, c'est-à-dire récupérer la maîtrise d'une matière première invisible, le temps. Le temps qui est approprié aujourd'hui par le temps dominant de la production privée et de la finance. Le temps qui intéresse ce secteur-là des activités humaines, c'est le temps court, c'est le temps immédiat, c'est le temps zéro, celui de la transaction. Et pour les entreprises, c'est le benchmarking à 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois l'obligation de rendre des comptes pour montrer qu'on est dans le bon fil de profitabilité. Il est impossible de construire une stratégie à 3 mois dans quelque activité humaine que ce soit. Il faut du temps. Se réapproprier le temps long, c'est ça le sens de la planification. Et il n'y a pas de planification et de développement d'une économie écologique sans planification, c'est-à-dire sans maîtrise du temps long. La récupération par la planification nous permet d'imaginer par quelles étapes nous allons passer pour substituer un ordre de production de l'énergie à un autre. On ne pourra pas le faire en claquant les doigts ni en éteignant la lumière. On a besoin de 20 ans pour passer du nucléaire à autre chose. C'est très long, c'est trop long. Il faut qu'on trouve le moyen. De même, la recherche fondamentale doit être mise à travailler plus que jamais. Si nous ne refroidissons pas les déchets que nous avons, qu'est-ce qu'on va en faire? Peut-être que vous ne le savez pas, on a déjà foutu à l'eau. Vous ne le savez pas, heureusement pour vous. Ça permet de mieux dormir. Et puis le reste, on a fait un tas avec. Et comme on ne sait pas quoi faire avec, et qu'on parle des risques de terrorisme, etc., etc., il s'agit de transbahuter tout ça pour le mettre dans un trou, à dur. En espérant et en croisant les doigts que ça ne provoque pas une catastrophe encore plus grande. Et figurez-vous que nous, on a fait le calcul. À raison de 2 colis par jour qu'on descend au fond, il y en a pour 100 ans. Les déchets actuellement accumulés pour les foutre dans le trou, c'est 100 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas la solution à aucune des objections qui sont présentées à leur actuelle dissémination. On prétendrait que c'est une solution de les ramener tous au même endroit. Non, il faut trouver le moyen de les refroidir, c'est-à-dire d'arrêter, de ralentir le processus de la radioactivité. Ça, c'est de la recherche fondamentale. J'ai aucune idée de comment on peut faire, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Donc on a besoin d'investissements publics lourds dans la recherche et l'éducation. Pas superficiel ni cosmétique, lourd pour que des gens puissent travailler, d'accord, à chercher, y compris sans rien trouver. C'est Picasso qui a eu la réplique définitive sur le sujet. Il a dit « Moi, je ne cherche pas, je trouve. » Et quand on cherche, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et des fois, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Tout le monde le sait, mais l'esprit humain est fait comme ça. Par conséquent, tous ces bellâtres qui prétendent mettre l'esprit dans des rails pour en tirer du jus se trompent complètement sur la façon dont tout ça peut fonctionner. Donc vous voyez, tout ça, ça veut dire de l'investissement public. Ça veut donc dire de l'argent qui aura été collecté, d'abord celui qui est dans vos poches. Dans les bas de laine des Français, il y a l'équivalent d'une année du budget de l'État. Donc on ne manque pas d'argent dans ce pays. Ce que je veux vous dire, de tout ce que je viens de dire, l'éco-socialisme, c'est une manière de reprendre le goût du futur, de se passionner pour ce qui va arriver, et de ne pas le regarder avec hantise, angoisse, en se disant « c'est très dangereux, tant mieux !» Plus c'est compliqué, plus on est obligé de chercher ensemble. En quelque sorte, sous cette forme renouvelée, retravaillée complètement par l'esprit des Lumières, le communisme est l'avenir de l'humanité. Pour terminer, en France, on fait toujours des citations, on va reprendre une que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises, mais elle aide bien à réfléchir, c'est de Gaston Bachelard, donc personne ne prendra ça pour du communisme. Hein. Ça dit, le futur, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Voilà, merci.
Et non, partez pas tout de suite, Et attendez, il y a un petit bonus. Ouais, un petit bonus dédicacé à nos auditeurs en Ariège, en Aveyron, dans le Tarn, dans le Gers, un peu partout, à tous les colibris, à tous les essayants, un peu partout. Bah, il y a un petit mot pour vous, tiens.
Là, on a eu l'exemple de Grenoble, où il y a une alliance rouge-verte. Dans la zone du sud-ouest, ça ne se traduit pas encore au niveau municipal, on pourrait dire, mais il y a déjà des petites marges d'expérimentation. Il y a les villes en transition, il y a certaines communautés quasiment autogestionnaires même. Il y a même une dynamique en Ariège, dans l'Aude, des départements comme ça, de retour au monde rural pour construire des choses de manière alternative. Est-ce que toutes ces choses-là, c'est des éléments d'écosocialisme déjà aujourd'hui?
Clairement oui, et surtout des signes annonciateurs. On a l'impression que le socialisme historique ayant été pulvérisé, on se retrouve dans, un peu comme on l'était à la fin du 19e siècle lorsque le mouvement socialiste faisait ses premiers pas. Je dis bien le mouvement socialiste qui regroupait tout le monde à l'époque, hein, avec une très grande variété d'écoles de pensée, de pratiques, d'innovations qui ont véritablement foisonné pendant toute cette période jusqu'à ce que se produise l'unification idéologique et pratique qui a constitué la naissance des premiers partis sociaux-démocrates qui étaient beaucoup plus divers qu'on ne le dit aujourd'hui et en particulier, si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent l'histoire, la première internationale socialiste qui était extraordinairement composite puisqu'elle allait des marxistes aux anarchistes. Donc on a un peu l'impression d'être revenu dans cette phase où il y a beaucoup de bouillonnement, beaucoup de tâtonnement, et ce sont les faits qui vont trancher. Clairement, Grenoble est quasiment une figure chimiquement pure de ce qu'il nous faut faire. D'abord pour mon parti, qui a eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait que la tête de liste à Grenoble soit Europe Écologie Les Verts. Que la démonstration n'aurait pas eu la même signification, même si nous étions capables de faire des choses brillantes, si nous, le parti de gauche, nous avions eu la tête de cette liste. Il fallait que ce soit Europe Écologie Les Verts. Bon, donc c'était le premier acte d'intelligence à faire. Le deuxième, c'est qu'il fallait gagner à tout prix. Alors il y avait plusieurs endroits comme ça en France, hein, mais on n'avait pas les mêmes espérances partout. Mais on estime que Grenoble va nous apprendre des choses. Nous ne nous approprions pas Grenoble, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si cette affaire prospère à partir d'elle-même, c'est-à-dire de l'initiative de la base citoyenne qui a produit cette victoire dans sa combinaison avec la présence de partis politiques comme Europe Écologie Les Verts, le parti de gauche, mais aussi l'association citoyenne. Donc ça doit aller à sa propre vie, à son propre rythme. Donc ça, c'est un bel exemple pour le futur. Alors, est-ce que dans cette région, on va pouvoir faire des choses? Il y a, comme vous l'avez souligné très justement, des choses qui viennent et sont sur le terrain. Des fois, elles ne sont pas spectaculaires, elles ne sont pas visibles, hein, elles ne sont pas institutionnelles, voilà. Vous ne les voyez pas forcément dans les conseils municipaux ou dans les conseils régionaux, mais elles sont là. Deuxièmement, il y a un appétit pour l'écosocialisme. Soit qu'on y entre par la porte de l'écologie, et qu'on se dise qu'il est absolument impossible de régler quelques problèmes écologiques, que ce soit sans justice sociale, et soit qu'on y entre par la porte du socialisme. Voilà. Moi, je recommande à mes camarades de saisir aux cheveux toutes les occasions de faire avancer cette idée. Alors, peut-être qu'on en aura ici plus vite que certains ne le croient. On aidera partout du mieux qu'on peut.
I won't tell my slack up. Honky better back up. Try and play the running.